7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, nous parlons des produits français. Au lendemain du salon Made in France qui s'est achevé hier, faut-il crier cocorico ou bien plutôt s'interroger? La France a-t-elle encore du talent? Parmi mes invités, Fabienne Delahaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice du salon Made in France à Paris, 4e édition cette année. Donc vous êtes très fatiguée, vous avez passé 3 jours.
Ça se voit donc.
Portez à bout de bras les PME françaises. Thomas Hurier, vous êtes fondateur de 1083. Vous étiez aussi présent sur le salon Made in France.
Tout à fait, bonjour.
1083, c'est une marque de jeans et de chaussures fabriquées en France. Pourquoi ce nom, 1083?
1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France. Et donc notre promesse, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de tous les métropolitains.
D'accord, donc quand on achète un de vos produits, c'est forcément à moins de 1083 km.
C'est
si
ça.
On l'achète en France.
Si on l'achète depuis la France.
Le jour où vous exporterez, c'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Là, ça sera plus...
Ça sera différent.
1083, donc pour des jeans et des chaussures made in France. Également dans le studio, le chroniqueur humoriste Didier Porte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé en économie, je tiens à le préciser, chroniqueur à Mediapart, et vous publiez l'assez sérieux atlas de la France qui gagne, 50 cartes, des chiffres. Je dis assez sérieux parce qu'on apprend beaucoup de choses.
Oui, il y a
dans
des
cet
infos,
atlas. Hein.
Des
oui, oui. Tous les étrangers d'ailleurs qui croient connaître la France, à commencer par un certain candidat à l'élection américaine qui a dit récemment que la France... Travailler quoi, 3 jours par semaine,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça, la, ouais. La semaine française, 3 jours.
Alors, quant à vous, justement, les Français, les voisins, vous me perturbez, que pensez-vous des savoir-faire français? Quels sont vos produits français préférés? Vous pouvez nous appeler, le standard est ouvert si vous souhaitez participer aux discussions, 33 1 84 22 71 71, et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Je vous lis quelques messages que vous pouvez commenter, bien sûr. Sambank est à Lomé, au Togo. Pour ne pas vous mentir, on consomme plus de produits chinois, japonais, sud-coréens que de produits français. Ça, on s'en doutait. Mamadou, à Dakar. Au Sénégal, tout ce qui vient de France est très demandé. Même si c'est du toc pour vendre, il suffit de dire que c'est du made in France. Mahmoud qui est à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Personnellement, je n'arrive toujours pas à me détacher de ma Peugeot 406. Son charme, son élégance... Sa classe, voilà. Alors, ceci dit, aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment certains modèles de certaines voitures made in France, Fabienne Delahaye?
Oui, effectivement, oui, on a des modèles made in France. D'ailleurs, il y a un label qui s'appelle
Citroën.
MFG.
Hein, ouais.
Chez Peugeot aussi, ouais. Mais chez Toyota, qui est une marque japonaise et qui pourtant propose de construire à Valenciennes et c'est plusieurs milliers d'emplois. Mais moi, je veux bien répondre à la question sur la personne qui dit que parfois c'est du toc le Made in France.
Ouais.
Ce qui m'intéresse, parce qu'on fait une grande confusion entre la marque France et le fabriquer en France. C'est pas parce que c'est écrit que l'entreprise est française la plupart des entreprises qu'on délocalisées, elles ont des sièges sociaux en France, on croit que c'est des produits français
et souvent, c'est pas du Canada Dry. Souvent c'est même
et
pas
moi,
conçu en France.
Je vais goûter un reblochon, monsieur, vous me direz si c'est du toc.
Voilà.
C'est incroyable.
Mobido qui est à Bruges en Belgique. Moi je trouve que la France garde sa place d'honneur sur des produits comme les voitures, les téléphones. Alors là les téléphones, je vois pas de quoi il parle mais
Je suis pas au courant en tout cas.
Les vêtements, alors peut-être les téléphones fixes, Alcatel et encore. Dans de nombreux pays, nous préférons les marques et produits français aux autres, car ce sont les meilleurs. Voilà. Vous avez la parole, si vous le souhaitez, sur le Made in France 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Alors, le salon Made in France qui vient de s'achever hier, Fabienne Delahaye, quelles sont les vraies bonnes nouvelles?
Ah, alors les vraies bonnes nouvelles, c'est qu'on est passé de 80 exposants à 400 en 3 ans et de 15 000 visiteurs à, je ne peux plus les compter tellement il y en a eu, donc plus de 50 000. Et l'intérêt, ça, c'est du coup l'engouement pour le Made in France et la prise de conscience des consommateurs, des citoyens, qu'on peut pas désindustrialiser comme on le fait depuis 30 ans et préserver son emploi, l'environnement et son pouvoir d'achat. Mmh. Donc, bonne nouvelle.
Mais est-ce que les exposants, parce qu'ils payent assez cher leur stand, est-ce qu'ils sont repartis avec des carnets de commandes? Je sais pas, je pose la question à vous, Thomas Hurier, vous produisez des jeans et des chaussures, vous étiez exposant. Vous êtes reparti avec un carnet de commandes rempli.
Oui, ce salon est vraiment un temps fort pour nous parce que déjà on rencontre nos clients, on vend beaucoup sur Internet, donc le fait de les rencontrer en vrai, c'est important, ça a de la valeur d'une part. Ouais. Ensuite, on recueille beaucoup de commandes. Là, en 3 jours, on fait l'équivalent d'une moitié de mois sur Internet. Donc, 3 jours pour 15 jours d'activité en théorie, c'est quand même très valable, sans compter les retombées presse. Ma présence ici en témoigne, avec beaucoup de communication qui permet de développer notre notoriété.
Vous êtes allé au salon Made in France?
Non, mais je me pose la question, est-ce que vos jeans sont plus chers parce qu'ils sont Made in France?
Non, nos jeans sont à 89 euros. Donc, c'est le prix de jeans de marque. Notre astuce pour être concurrentiel avec des jeans en coton bio qui sont filés, teints, tissés et confectionnés en France, c'est de diminuer les intermédiaires. On s'est aperçu que, donc moi je suis originaire de Romans, la capitale de la chaussure, et en 50 ans, ce qui a changé, c'est, on entend beaucoup à la télé le problème du coût du travail, mais en fait il est globalement proportionnel à notre niveau de vie, puisque c'est nos revenus. Et en fait on s'est aperçu que ce qui avait fondamentalement changé en 50 ans, c'était le nombre d'intermédiaires, notamment dans la part de distribution qui est devenue énorme. Quand il y a 50 ans, on multipliait par 3 le prix de revient pour avoir le prix de vente. Aujourd'hui, une marque de mode multiplie par 10. Donc nous, on s'est contenté de remultiplier.
C'est quoi les intermédiaires? Alors à la sortie d'usine d'un jean normal, c'est quoi les intermédiaires qui grèvent le prix pour le consommateur et que vous avez supprimé par exemple?
Comme les productions sont généralement délocalisées, il faut des gens pour suivre les productions à distance. Ensuite, il y a beaucoup d'intermédiaires liés au transport, aux gestions de production, et puis il peut y avoir aussi beaucoup de sous-traitance, donc du coup ça rajoute des marges. Ensuite, il y a beaucoup d'intermédiaires aussi dans la distribution. En fait, on a des productions qui sont centralisées dans les pays asiatiques généralement, et une distribution qui est mondiale. Donc pour gérer ces différents sites de distribution, il faut des intermédiaires, des grossistes qui coûtent en marge et qu'on a supprimés.
Donc vous vendez directement, sortie d'usine, ça part où? Alors sur votre site internet, on peut acheter sur internet ou bien?
Voilà, principalement sur internet, sinon on est dans quelques points de vente en France qu'on commence à développer, mais sinon sur 1083.fr.
Didier Porte, vous penseriez à vous acheter un jean made in France ou pas?
Oui, non, mais je suis assez partisan.
Parce que le textile, a priori, on pense même plus trouver du textile fabriqué en France.
Absolument, c'est une bonne surprise qu'on puisse retrouver des filières comme ça, enfin qu'elles soient pérennisées, parce que voilà, on a une grande tradition en plus au niveau du textile en France. Donc est-ce que Montebourg est passé?
Je me posais la question.
Arnaud Montebourg, l'ex-ministre du redressement.
Et l'économie. Il est passé.
La star, j'imagine.
Il est extrêmement bien accueilli, et même par des entreprises qui n'ont pas partagé, même à l'époque où il était ministre, ses convictions politiques, tous quand même reconnaissent qu'il a...
C'est lui qui a lancé le mouvement, vous pensez?
Alors, c'est fou, beaucoup le pensent. Non, franchement, non, c'est vraiment une idée qui est sortie de mon cerveau malade, vraiment.
Est-ce qu'aujourd'hui, le Made in France, c'est vraiment devenu un argument commercial ou pas? Parce que il suffit de se rendre dans un grand magasin, dans un supermarché, les gens ne regardent pas les étiquettes sur le lieu de fabrication.
En tout cas, si c'était pas un argument de vente, pourquoi des entreprises qui sont françaises, par exemple certains constructeurs automobiles, qui n'ont de français que le siège social et qui parlent de French Touch à longueur de messages publicitaires, si c'était pas un argument de vente, alors pourquoi l'utiliseraient-ils?
Non, moi je pense que c'est un vrai argument de vente, parce qu'au-delà des affichages, etc., en tant que consommateur et même citoyen, on a tous besoin de sens dans ce que l'on fait tous les jours, et avoir en face de son achat les hommes et les femmes qui ont fabriqué ce qu'on achète, notamment nos jeans, ça a de la valeur. Donc pour moi, le Made in France est quelque chose qui devient de plus en plus populaire et dont les consommateurs prennent conscience.
Vous faites fabriquer vos chaussures à Romans, c'était vraiment la capitale de la chaussure il y a 20 ans. Il y avait encore combien de personnes qui travaillaient dans la chaussure il y a 20 ans à Romans?
Alors déjà, Romans c'est la capitale de la chaussure, je m'entête à en parler au présent, parce qu'il y a encore des fabricants.
Ouais.
Et effectivement, on a perdu beaucoup d'emplois parce que c'était une ville...
Il y a 10 fois moins aujourd'hui, non?
Oui, il y a 10 fois moins, c'est vrai, mais il y a toujours des savoir-faire, des machines, des réparateurs de machines. Tout cet écosystème, il existe encore, et c'est grâce à cet écosystème qu'on a pu relancer une production, nous, petite marque. On était parti pour fabriquer 100 paires de chaussures, on en est à 5000 cette année, donc on a créé 4 emplois dans un atelier de chaussures, donc c'est vraiment du présent. Alors après, c'est sûr que c'est pas le niveau d'activité d'avant, mais la ville s'est transformée avec de l'agroalimentaire, de la plasturgie, et on a quitté un peu la mono-industrie pour être sur une activité un peu plus pluraliste.
Ouais, vous avez démarré votre entreprise 1083 avec une campagne de financement participatif sur Internet.
Oui, complètement. Complètement, en fait, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur comme commerçant. pendant 3-4 ans, j'ai vraiment fait plein d'erreurs. Je suis parti très incompétent. Et ces erreurs m'ont beaucoup aidé à grandir. Et quand j'ai eu l'idée de faire travailler les ateliers du coin de chaussures, j'ai décidé d'avoir un contact direct, de rapprocher le consommateur du fabricant. Mmh. Et le financement participatif, d'une part, me permettait d'avoir l'argent pour lancer ma production en achetant les matières premières. Et d'autre part, me permettrait de communiquer sur ma marque, de recueillir les tailles et les couleurs de mes clients avant de lancer la production, de me faire connaître. Et du coup,
en fait,
ça
vous
m'a
avez lancé le carnet de commandes avant de lancer la production,
c'est ça.
Si vous deviez donner des conseils, d'ailleurs, pourquoi pas à des voisins qui nous écoutent dans leur propre pays, qui aimeraient relancer la production de certains savoir-faire qui sont en train de se perdre dans leur propre pays, parce que l'Asie a inondé les marchés, quelles sont ces erreurs que vous avez commises ?
Les principales erreurs, c'était que je me rendais pas compte du. En fait, il faut faire la différence entre ses goûts à soi et les goûts de ses clients.
Oui, ça vaut mieux.
Et quand on oublie trop ses clients, finalement, on peut pas s'étonner d'en avoir pas beaucoup, puisqu'on est tous différents. Et par ailleurs, je pense que il faut pas hésiter à se mouiller, à incarner sa marque pour témoigner de sa sincérité, la sincérité de sa démarche. Et il faut pas avoir peur de se mettre en avant parce que on n'a pas forcément confiance en une entreprise. Par contre, entre femmes et hommes, on peut avoir confiance quand on démarre.
Vous êtes venu en marinière aujourd'hui, c'est normal, c'est un hasard.
C'est un hasard, mais j'en porte beaucoup.
Oui. On va faire une petite pause avec du rap français. Et puis bien sûr, Didier Porte, vous allez nous expliquer un peu la productivité française. La main d'œuvre française, finalement, est-elle trop charge? C'est ce qu'on nous raconte souvent. Les charges sociales qui sont très élevées, c'est ce que disent aussi les patrons d'entreprise. On y revient. La France a-t-elle toujours du talent pour produire du Made in France? Dans quelques instants, juste après Blablabla.
On est comme les autres, les haines ne me font plus d'effet. Demande à Dooms de l'entourloupe, les ennemis font plus les pierres. Écoute pas les ragots, ça suffit pas de parler à gauche. Tes paroles des magots, va les faire avaler à gauche. Mes ex-potes, mes ex-putes, je m'en moque éperdument. Même si tu t'excuses, je vais pas te mettre en cloque et perdre du temps. J'accède au stade au-dessus, j'étais stade stupide, mais ça bosse dur. Puis bientôt je m'installe au-dessus.
On parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attend pas. Wow, ils font les malins midi, matin, soir. J'ai des problèmes, les mythes, moi je m'en tape.
Et tu le sais,
tout le monde parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attend pas. Wow, ils font les malins midi, matin, soir. Mais c'est langue pendue, pendue que du blablabla bla, bla.
Tout ça ne m'atteint pas. Oh non, 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 non. Tout ça ne m'atteint pas. Tout ça ne m'atteint pas. Oh non, non. Non, non, tout ça ne m'atteint pas.
En bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle du sneeze. Plein Jacques d'un brin de rage, mais la plupart sont juste fans de lui. J'en connais plein qui auraient déjà jeté l'éponge. Mais je suis au-dessus, je bosse dur, donc ne crois pas que je vais répondre. Pareil que je suis gay, moi je pense que c'est leur fantasme. C'est triste, la bêtise reste pendant que le temps passe. Pareil qu'on est bourgeois et que sur notre chemin y'avait pas d'impasse. Aucune justification, la leçon c'est que ça ne m'atteint pas.
Bla bla bla, ils adorent parler plus que les autres. Bienvenue dans le tournoi de la jactance, bienvenue dans la fosse. Là où beaucoup t'attendent pour te jeter des caillou dans le dos là où tu peux assumer en face te dire on n'en sait pas nous en gros. Ça se passe la pommade quand c'est la mode, puis ça se rétracte un an après quand t'es redescendu la côte. C'est dur, 95 on maintient le cap, donc chante avec nous pour leur montrer que leur jalousie nous atteint.
Tout le monde parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attend pas. Wow, ils font les malins midi, matin, soir. J'ai des problèmes, les mythos, moi je m'en tape.
Et tu sais,
tout le monde parle mal de moi mais ça ne m'atteint pas. J'ai fait mes bails et pris le large, bébé ne m'attend pas. Wow, ils font les malins midi, matin, soir. Mais c'est langue pendue, pendue que du blablabla.
Blablabla, c'est bien du rap français, c'est le groupe 1995. Oui, c'est comme ça qu'il faut dire. 7 milliards de voisins, vous êtes bien sûr RFI aujourd'hui. Nous parlons du Made in France au lendemain du salon Made in France qui a duré 3 jours à Paris, 4e édition, vous nous le disiez, Fabienne Delay, avec beaucoup plus d'exposants qu'il y a 4 ans, évidemment, véritable engouement. Est-ce qu'on est encore sur un vrai petit sujet de niche, c'est toute la question? Par exemple, vous, Thomas Hurier, vous êtes producteur de jeans et de chaussures Made in France à Romans et à Marseille. Les jeans sont tissés, teints à Marseille, hein. C'est pas du tissu que vous importez, on est bien d'accord. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui?
Oui, ça fait deux exercices qu'on a une rentabilité de 5 à 10%. Donc ce bénéfice nous permet de réinvestir et de participer au développement de notre activité. On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires contre 200 000 il y a 2 ans. On a créé 15 emplois, donc le Made in France, ça marche.
Qu'est-ce qu'on dit autour de vous?
Eh ben, il y a quelques bravos, c'est gentil.
Non, mais au début, on disait quoi et aujourd'hui?
Alors au début, on disait bonne chance. Maintenant, on dit bravo, mais nous, on veut pas se être de l'auto, dans l'autosatisfaction. On veut construire, continuer de construire.
Et la Ferrari qui est garée en bas, c'est la vôtre, non?
J'ai toujours une ZX, donc du coup, je
l'ai dit de France. Alors justement, Didier Porte, vous savez qu'on dit beaucoup, hein, on va demander l'avis de Thomas Hurier, mais que les charges sociales sont trop chères. Vous publiez l'Atlas de la France qui gagne. Meilleure productivité en Europe devant les Allemands. Moi, j'arrive toujours pas bien à comprendre comment c'est bien calculé, mais une heure travaillée en Allemagne génère, c'est les chiffres que vous donnez, hein, oui. 42 euros de richesse. Alors, en France, ça génère 45 euros de richesse.
Oui, hein. Absolument, c'est des chiffres incontestés, hein, de toute façon. Alors, effectivement, pour autant, ça suffit pas à nous déclarer supérieurs aux Allemands sur tous les plans, ça, c'est clair. Mais enfin, il faut arrêter aussi de culpabiliser les Français sur cette soi-disant prodigalité en charge sociale, en dépenses sociales, etc. Ça fait partie de aussi de la qualité de vie en France et de la sécurisation des emplois. C'est vachement important. Et c'est pour ça que moi, mon atlas, j'ai essayé de pas l'axer sur le PIB. Hein. On sait aujourd'hui que l'ancien calcul du PIB ne tenait pas compte de considérables nuisances et de la pollution notamment. Donc aujourd'hui, enfin, il faut raisonner autrement qu'en pays en termes de PIB.
Si on prend l'indice du bonheur, on peut pas dire que les Français aient un moral d'acier.
Hein? Ouais, mais enfin ça c'est là pour le coup c'est pas sérieux.
Alors donc là les Français sont une très grande productivité, mais par contre durée du moyenne de travail à temps plein c'est la plus faible en Europe, hein, après les Finlandais. Et puis on est les champions du monde de la grève. Là
c'est
aussi,
bien. On a plein de temps libre. On est champions du monde du temps libre.
Voilà. Donc alors on est bosseur ou efficace, vous diriez?
On est bosseur comme tout le monde. Faut arrêter de là aussi.
Ou efficace parce qu'on travaille pas beaucoup.
De se flageller. On est efficace, on est créatif. Il y a des secteurs sur lesquels on est très performant. C'est pas toujours ce que je préfère d'ailleurs. Hein, le nucléaire, l'électricité nucléaire, c'est pas non plus ou le diesel. Effectivement, on est très performant sur le diesel. Voilà, mais
on est numéro un mondial des prises électriques et des interrupteurs. Voilà, ça fait pas de mal.
Notamment, on est la première destination des naturistes. Ouais. C'est quand même vachement important. On est la première destination touristique au monde. Alors bon, le problème c'est que la chose la plus visitée en France c'est Euro Disney. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais voilà, il y a plein de c'est nous qui avons le plus grand nombre de psychiatres en Europe, c'est important de se soigner.
Et de bovins,
on a un cheptel extraordinaire, comme on a un très beau réseau routier aussi.
Ça me donne un chiffre quand même.
Ça permet une complémentarité entre les bovins et le réseau ferré. Vous voyez, c'est
il y a quasiment un bœuf ou vache pour 3 Français.
Ah, c'est hein? Oui. Ça et les animaux de compagnie aussi.
Hein. Ouais. Mais alors finalement pour vous, Thomas Hurier, les charges sociales, la main d'œuvre, est-ce que c'est une vraie question primordiale pour votre activité Made in France, vos jeans et vos chaussures pour 1084, votre marque?
Pour moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, ça change tellement tout le temps que je suis même pas en capacité de juger si ces charges sociales sont trop élevées ou pas assez élevées. Ce que je dis, c'est que c'est pas de ma responsabilité, c'est une responsabilité politique, et ma responsabilité d'entrepreneur, elle est de voir ce qui a changé au-delà du coût du travail. Et je me suis aperçu que en 50 ans, à Romans, on produisait beaucoup plus de chaussures qu'on vendait localement, puisque l'économie était beaucoup plus localiste que mondialiste comme aujourd'hui. Et j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé. Le coût du travail augmente avec le niveau de vie, en quelque sorte. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir autre chose pour nous empêcher, nous autres Français, d'acheter des produits locaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a transformé le modèle économique avec beaucoup plus d'intermédiaires aujourd'hui qu'avant. Du coup, si avant, une chaussure qui coûtait 10 à fabriquer, eh bien, on la vend des 30. Aujourd'hui, pour vendre une chaussure 30 euros, avec tous ces intermédiaires, la marque doit l'acheter 3. Donc du coup, quand on produit pour 10, ben, on n'arrive pas à faire du Made in France. Donc j'ai cherché à raccourcir la filière.
En fait, vous êtes revenu à des méthodes d'il y a 50 ans.
Oui, en fait.
D'une certaine façon.
Je suis simplement
avec l'Internet en prime.
Simplement revenu à la méthode qui était en vogue quand le pays était industrialisé. Ouais. Rien de plus, rien de moins. Et avec Internet, c'est beaucoup plus facile, puisque du coup, notre marché, il est mondial, en quelque sorte, et de proximité.
Donc, Internet plus plus nouvelle technologie, ça donne une boîte moderne. Plutôt, les vieilles méthodes plus nouvelle technologie, ça donne une boîte moderne. C'est ça, finalement.
Et ça donne des emplois en France.
Ouais. Et 1083, c'est pas évident de se souvenir, hein, je trouve, comme marque. Hein,
ça va rentrer, 1083.
Bon, le problème, c'est 7 que milliards, vous voyez, c'est plus facile, hein, je trouve.
Mais le problème, c'est que tous les intermédiaires qu'on a supprimés, il faudra leur trouver un job aussi.
Restez avec nous. Bien sûr, on va en parler du Made in France. Didier Porte, Thomas Hurier, Fabienne Delahaye. Retour dans 3 minutes, juste après le flash, chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, une émission Made in France aujourd'hui, exceptionnellement, pour s'interroger. La France a-t-elle encore du talent? On en discute à la lumière de votre bon petit atlas. Didier porte l'atlas de la France qui gagne aux éditions Autrement. Thomas Hurier, vous êtes fondateur de 1083, marque de jeans et de chaussures fabriquées en France parce que c'est la plus grande distance entre les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Hein, preuve que pour l'instant, vous créez bien pour une clientèle de l'Hexagone, mais peut-être qu'on va vous réclamer vos jeans à l'extérieur. Fabienne Delahaye, vous êtes créatrice du salon Made in France qui a fermé ses portes hier avec un bon petit bilan. Et quant à vous, les voisins, où que vous soyez dans le monde, quels sont vos produits français préférés? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille Félix, un voisin qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Félix.
Bonjour Manuel.
Vous avez 36 ans, vous êtes Camerounais, mais vous êtes bien à Bamako. Vive la mobilité sur le continent africain. Et vous êtes un amateur de produits français, c'est ça?
Un fanatique, on dira, je dirais.
Un carrément fanatique.
Un fanatique. C'est juste la qualité supérieure. Mmh. Enfin, je ne lasse pas de le dire. Et des fois, pour résumer, j'arrive à dire que les autres, c'est la quantité. Le Made in France, c'est la qualité. Voilà, et moi je suis, sans publicité aucune, hein, je suis un fanatique des polos, des vêtements Lacoste, chemises, polos et chaussures, que je trouve très beaux, en termes de design, de la très bonne matière, en termes de textile, parlant des polos. Et voilà, et bon, c'est vrai que des fois j'arrive à signaler à chaque vendeur que je croise le fait que voilà, les prix sont quand même un peu onéreux, c'est pas à la portée de tous. Mais moi, je suis bien d'accord pour mettre, je suis bien d'accord pour mettre une somme, une forte somme pour acquérir un polo à Lacoste que de mettre la même somme pour acquérir quatre polos d'une autre marque.
Ouais.
Donc, je suis vraiment.
Mais alors, quand vous achetez vos fameux polos, Félix, est-ce que vous regardez l'étiquette?
Oui, évidemment, évidemment. Ouais. Et bon. C'est vrai que moi en l'occurrence, au Mali, c'est pas au Mali que je m'approvisionne parce qu'au Mali, il n'y a pas une boutique.
Oui. D'accord, mais là, alors il se trouve qu'on n'a pas de polo dans le studio, hein, mais vous, si vous en avez un sur vous, là, vous pouvez regarder l'étiquette, où est-ce qu'il est fabriqué?
Alors, laissez-moi vous dire.
Ah, mais vous l'avez bien sur vous, non, d'accord. Enlevez le polo carrément, on vous voit pas de toute façon. Regardez l'étiquette.
J'ai pas de polo devant moi, mais j'ai une chaussure Lacoste que j'ai achetée il y a deux semaines en France.
D'accord.
De Francfort en Allemagne.
Bon, alors pendant que vous enlevez vos chaussures, Félix, petite précision avec Fab Leyen de la Haye. Quand on parle de Made in France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre, nous les consommateurs?
Alors c'est pas facile parce qu'en plus beaucoup surfent sur la vague. C'est pas parce qu'une entreprise a le siège social en France que sa fabrication est faite en France et avec les savoir-faire français.
Ça peut être dessiné, conçu en France en tout cas.
Alors voilà, conçu en France, il y a tout un tas de noms, qui sont. Alors, il y a un label qui s'appelle Origine France Garantie, qui est sérieux et qui atteste de l'origine française des produits. Mais ce qu'il faut savoir, je suis désolée parce que c'est un peu en contradiction avec ce que dit votre auditeur, enfin un tout petit peu.
Non, mais c'est une belle marque française néanmoins.
Voilà, c'est une belle marque. Mais très souvent, les marques qui produisent, qui fabriquent en France et en préservant les savoir-faire, c'est pas forcément les plus connus.
Alors Félix, est-ce que vous avez enlevé votre chaussure pendant qu'on parlait?
Oui.
Est-ce que vous avez
marqué Made in Vietnam?
Voilà. je préfère que ce soit vous qui le dites.
À la boutique Lacoste de Francfort en Allemagne, il y a cela deux semaines.
Ah, d'accord. Bon, non, mais l'essentiel c'est de le savoir. Hein, on est bien d'accord. Bon, la démarche est transparente néanmoins. Bah, vous avez l'air déçu, hein. Je vous sens déçu, Félix.
Non, pas du tout. Moi, à partir du moment, bon, vous me direz, si ça se trouve, je me trompe, mais à partir du moment, je vais acheter dans une boutique agréée Lacoste, une boutique Lacoste, avec un sein Lacoste.
C'est pas du faux, c'est pas du toc, hein, d'accord. Ouais, oui.
Naïvement, je me dis que c'est la qualité.
Ouais. Bon, Thomas Hurier, c'est peut-être le moment de vous adresser à Félix, là, où vous fabriquez uniquement du Made in France, mais à combien de pourcents du Made in France? Vos chaussures, par exemple.
Oui, moi, je suis curieux de savoir le prix de ces chaussures, puisque nos chaussures entièrement fabriquées en France.
Alors, vos chaussures, vous les avez payées combien il y a deux semaines, Félix, hein? Made in Vietnam.
Je les ai achetées à 156 euros.
156 euros, voilà. Et vous, vos chaussures, tout en cuir ou en quoi?
Alors, le modèle tout en cuir est à 129 euros. Il est entièrement coupé, piqué et monté à Romans. Donc, il est 100% fabriqué en
France.
Donc,
dans la Drôme, hein, dans le sud de la France, les matériaux, si on décortique toute la chaussure, qu'est-ce qui vient d'ailleurs,
hein? Il y a à peu près la moitié des matières premières qui sont originaires de France. L'autre moitié, c'est les pays limitrophes. Parce qu'en fait, lorsque la France a délocalisé sa fabrication de chaussures, beaucoup de sous-traitants très spécialisés sont partis, notamment fabricants de semelles, quelques tanneries, etc. Donc ce qu'on peut, on l'achète localement.
Les semelles sont faites au Portugal, c'est ça?
Les semelles sont pour l'instant faites au Portugal, mais on a trouvé un fabricant de fils électriques qui va pouvoir nous aider à fabriquer nos semelles en caoutchouc.
Qui va fabriquer des fils électriques, qui va fabriquer des semelles pour
oui,
vous?
Oui, parce qu'en fait, c'est le savoir-faire du travail du caoutchouc. Et il a conservé quelques machines pour presser des semelles. Et donc, grâce à lui, on va relocaliser la fabrication de nos semelles.
Et donc, vous vendez ces chaussures essentiellement sur Internet, hein, en tout cas pour les gens qui sont loin des quelques points de vente en France. Vous avez des questions à poser à Thomas Hurier qui fabrique des chaussures moins chères que celles que vous avez, entièrement made in France, en tout cas en grande partie, et avec des matériaux nobles, hein, en cuir, Félix?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas une question, mais j'ai une doléance. J'aimerais, mais pas que ce genre de créateur du made in France, voilà, puisse, n'est-ce pas, rendre le produit plus accessible, pas en termes de coût, mais en termes d'accessibilité en Afrique, en l'occurrence au Mali où je suis, je veux dire, je pourrais vivre ici toute ma vie et mourir sans connaître qu'une telle marque existe. C'est peut-être ça le problème. Moi, je suis amateur de made in France, mais c'est pas accessible. C'est pas de prix, je parle de visibilité. Donc voilà, si le monsieur sur votre plateau peut nous faire connaître ses produits, parce que là il a parlé de la vente en ligne, c'est pas un procédé très répandu en Afrique.
Mais bien sûr, bien
donc,
sûr.
Oui, partant de là, ça marque à toutes les chances de ne jamais exister en Afrique. Et c'est malheureux parce qu'il y a quand même un marché, même s'il est infime, existant.
Ah bah oui, on est bien d'accord. Thomas Hurier?
Alors nous, on distribue sur Internet, sur 1083.fr. Donc les informations que vous pouvez avoir au Mali sur notre site Internet sont les mêmes que celles auxquelles ont accès nos clients qui habitent Paris. Donc en fait, grâce à Internet, on est voisins.
Ouais, mais après, est-ce que vous envoyez vos produits aussi loin que cela?
Oui, bien sûr, oui. On envoie partout dans le
d'accord.
monde.
D'accord, à partir du moment où votre client est bancarisé et
voilà, il paye par carte, donc il y a des mécanismes de contrôle de validité de la carte bleue, et à partir du moment où elle est bonne, on expédie.
Ouais, Didier Porte, qu'est-ce que ça vous inspire, ce dialogue-là? Merci en tout cas, Félix, de nous avoir appelé.
Je soupçonne de Félix d'être un sapeur camerounais.
Oui, Félix, attendez, vous êtes... Didier vient de vous poser une question, Didier Porte. Vous êtes un sapeur, vous avez une âme de sapeur, dans le fond, même si vous n'êtes pas congolais, mais camerounais. Il a raccroché.
Oui, je suis un peu, oui.
Ouais, c'est ça.
Je l'assume. Hein. J'aime être bien nu et j'aime pas ma... J'ai souvent dit, j'aime pas ma vie de l'anonymat. J'aime bien porter quelque chose de bien fait, déjà de bien en termes de qualité et assez reconnu. Donc, ça peur, je l'assume et j'en suis fier.
Ouais. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Alors, vous nous le disiez, Thomas Hurier et Fabienne Delahaye, je ne sais pas si on retrouve cette problématique chez d'autres fabricants, mais pérenniser, relocaliser des savoir-faire, c'est une vraie préoccupation commune des PME là qui participent au salon Made in France.
Oui, je pense à Smuggler par exemple, qui c'est la dernière entreprise de costumes haut de gamme sur mesure masculin et qui effectivement crée une école pour préserver ses savoir-faire. C'est le cas aussi de l'entreprise Gautier. C'est intéressant, l'entreprise Gautier, parce que c'est 1000 personnes en Vendée. Donc, quand on parle de relocalisation, c'est une vraie façon de lutter contre la désertification des territoires et quand même la pauvreté des territoires. Lui, c'est 1000 personnes en Vendée et en plus dans un tout petit village. C'est pas 1000 personnes n'importe où.
Les meubles?
Et les meubles Gautier, leader européen du meuble. On parlait justement du marché national et le fait d'exporter. 80% de leur marché est en France. Ça les empêche pas d'exporter. Et ils viennent d'investir 10 millions d'euros pour parfaire leur outil de production et être justement plus compétitif pour répondre à la demande. Et justement, ils s'intéressent à la préservation des savoir-faire en recrutant des personnes, des anciens qui vont transmettre le savoir-faire à des plus jeunes. Et ça marche super bien. Ouais. Et au fin fond de la Vendée.
Mais alors, une fois qu'on a supprimé les intermédiaires, comme vous nous le disiez pour votre cas, Thomas Hurier, est-ce que pour vous, par exemple, la créativité et les prouesses technologiques, c'est aussi ce qui vous permet de sortir un jean au même, exactement au même prix, là, vous nous avez donné le prix de votre jean, que un jean qui est produit en Asie et qui est acheté par les jeunes à l'heure actuelle. On va pas citer les grandes marques.
Oui, c'est exactement ça. Sans les intermédiaires, on arrive à être concurrentiel de ces grandes marques-là. Après, la différence, c'est que les emplois qu'on crée, ils sont des emplois de production au lieu des emplois de distribution, et donc c'est à nous de rendre sexy ces métiers en atelier, en valorisant le travail des gens qui sont derrière les machines à coudre. Et comment on a fait pour ça? Eh ben déjà, on arrête de faire des ateliers sous-éclairés, poussiéreux, avec des machines beige clair, mais on a peint toutes nos machines en rouge, la couleur de 1083, donc c'est sympa, c'est fun.
Et le rouge, vous avez examiné, ça donne quoi comme couleur, vous savez, sur le moral, sur la... Vous savez que les couleurs ont une influence hein, sur la façon dont on vit, non?
Eh ben on vous dira, ça fait 6 mois qu'on a peint les machines, donc on vous dira si on a des statistiques qui montrent une meilleure productivité. Et un autre élément qu'on a fait qui est très important, c'est qu'on a rajouté une étiquette dans la poche du jean avec un QR code qu'on peut flasher avec son téléphone portable. Et en flashant son jean avec son téléphone portable, on peut avoir toutes les personnes qui ont participé à la fabrication du jean.
Ouais.
Donc les gens qui ont fait la couture, qui ont fait la coupe, qui ont fait le tissage. Et ça, c'est une manière d'expliquer à nos clients qu'un vêtement, ça pousse pas sur un arbre. Et donc, il faut respecter les gens qui ont fabriqué le vêtement qu'on porte. Et ça permet aussi de valoriser le travail de ces gens qu'on voit pas, qui sont cachés derrière leur machine à coudre, derrière leurs ateliers, et qui ont un savoir-faire incroyable.
Si vous êtes client, vous pouvez les appeler pour les engueuler. C'est... Donc, c'est un problème. Vous appelez directement le producteur.
Oui, et en plus,
c'est
très important.
Alors, le gars qui a cousu la braguette, là, il y a un problème. On a son portable, on a son 06.
Ça responsabilise, ça implique
absolument
tout le monde. Et du coup, effectivement, nous, on est tellement proche de nos clients que on peut pas ne pas faire de qualité, parce que sinon on est les premiers pénalisés.
C'est le principe du générique d'un film en fait. Hein. Si on reste jusqu'au bout, on voit combien de petites mains, de petits emplois et de personnes physiques qui ont travaillé sur un film. C'est ça.
Exactement.
Un peu.
Hein. Et c'est tellement valorisant, parce qu'on parle que des catastrophes que l'homme fait sur Terre. C'est chouette aussi de mettre en avant tout ce qu'on sait bien faire. Et du coup, l'idée de mettre en avant ces personnes qui participent d'une manière ou d'une autre à la fabrication de nos vêtements, et ben c'est une manière de montrer qu'on n'est pas des nuls.
Est-ce que vous avez dû innover en termes technologiques? On sait que par exemple pour les chaussettes Bleu Forêt qui sont fabriquées en France, ils ont des machines extrêmement performantes qui leur permettent justement de produire beaucoup, pas forcément avec beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes obligé aussi de faire preuve de savoir-faire technologique, ou pas tellement dans votre domaine?
Pas tellement, parce qu'en fait les usines les plus productives et les plus modernes sont celles en place dans les pays producteurs, donc la Chine, le Bangladesh, l'Éthiopie. Là, il y a des machines hyper modernes.
Trop cher pour vous?
Bah, disons que ça se construit. Nous, ça fait 2 ans qu'on existe, on a créé 15 emplois, c'est super, mais du coup, on n'a pas encore les moyens d'avoir une méga usine. Et en plus, il faut grandir en termes de vente. Il faut être capable de les vendre, tous ces jeans. Donc, du coup, on grandit petit à petit.
Fabienne Delahaye.
Mais effectivement, c'est le cas, pour répondre à votre question, c'est le cas d'entreprises, par exemple, la brosserie française avec Bioseptil, qui a relocalisé. C'est la dernière entreprise qui fabrique des brosses à dents. Alors, pas la brosse, mais la partie brosse, pas le manche, pardon. En mécanisant et en conservant des emplois. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup une machine ne crée pas d'emplois. Si, quand même, parce qu'il faut la construire, il faut la réparer, ça permet quand même de préserver un tissu local. Et grâce à la mécanisation et aux nouvelles technologies, il a réussi à rester en France. Préserver une quarantaine d'emplois.
Oui, c'est ça. C'est tout petit, bien sûr. La France ne sait plus produire à 80% une brosse à dents.
Alors, écoutez, ça fait quand même 40 ans qu'on a que la volonté politique a désindustrialisé. Enfin, c'est d'ailleurs, on parlait, je sais plus, tout à l'heure on a parlé vaguement d'Allemagne, mais en fait, même les jeunes, moi je fais partie de cette génération, même les jeunes aujourd'hui, moi je fais partie de cette génération où on nous a appris que l'industrie c'était mort, passe ton chemin, c'était terminé, il fallait faire du service, des hautes technologies, de la communication, et que il fallait s'en réjouir. Donc, dans ce contexte-là, où l'industrie était subalterne, forcément, on a perdu la volonté des jeunes d'aller dans ces métiers, parce qu'on les a vraiment découragés. Mais petit à petit, ça fait 40 ans qu'on désindustrialise. On ne va pas réindustrialiser comme ça en 48 heures. Oui. Mais moi, je sens quand même un mouvement.
Un mouvement qui reste évidemment tout petit. Didier Porte, vous ressentez ça aussi, une désaffection? En tout cas, les métiers de la production en tant que tels sont pas sexy pour la jeune génération?
Oui, je pense, oui, tout le monde est obligé de le constater. On a des enfants, moi j'ai des adolescents, ils ont pas envie d'aller travailler en usine, ça c'est clair. Est-ce qu'ils avaient déjà envie avant?
C'est pas une usine, c'est un atelier, c'est pas la même chose hein, quand il s'agit de petites PME.
Oui, c'est un atelier, on ouvre les portes, on ouvre aux visiteurs pour justement valoriser.
Et ça peut être aussi des tâches répétitives, pas toujours très très rigolotes, chez vous, même si vous êtes une jeune entreprise, moderne, et tout ça, peut-être que c'est un peu emmerdant aussi.
Il y a plein de métiers de service également, où c'est...
Oui. Les centres d'appel,
des métiers répétitifs, il y en a plein, on nous a fait croire que tout le monde devait travailler dans le service.
Non, mais vous avez raison, je suis tout à fait d'accord.
Franchement...
On a dévalorisé l'industrie, c'est clair.
Absolument.
Moi j'ai 34 ans, depuis tout petit on me disait qu'est-ce que tu veux faire? Alors on rêve d'être pompier, d'être journaliste, d'être tout ça. Il y a 50 ans, on arrivait sur le marché du travail, on bossait dans les chaussures, on se posait même pas la question. Le fait de rêver au métier qu'on voudrait faire plus grand nous rend plus difficilement capables de faire des tâches un peu moins fun.
Oui, enfin ça, on va pas refermer les rêves ni les horizons aujourd'hui.
Non, mais quand les enfants visitent des entreprises, il y a plein d'exemples. Ça leur donne envie de travailler justement dans ces entreprises. Et les visites d'entreprises sont marchent de mieux en mieux. Et les enfants, j'ai un fils qui a 12 ans. Moi, il me dit, mais je veux travailler justement dans une usine. Ça le fait rêver, justement parce que ça fait partie des choses abandonnées. Lui, ça le fait rêver.
À propos des rêves, je note quand même que vous trouverez dans mon excellent atlas, qui est un atlas un peu humoristique, faut le dire quand même. Ça n'a pas été dit jusqu'à à présent, vous découvrirez que la France est le premier exportateur de footballeurs au monde. Nous exportons nos footballeurs. Ce qui a un avantage, c'est que ça ne contribue pas spécialement à la fuite des cerveaux.
Ouais. Donc, je pensais que vous alliez parler des voiliers, parce que là aussi...
Les voiliers, c'est plus sérieux. Effectivement, on est bon sur les voiliers.
C'est vrai. Beneteau, c'est du très très haut de gamme.
On est bon sur les prises électriques,
mono, multicoque. Mais alors là où il est très fort, Beneteau, c'est que vous racontez qu'il commercialise aussi des marques qui fabrique des maisons
mobilhomes. Tant qu'à faire.
Donc, du très grand luxe.
De la maison mobile, comme ils disent.
Vous nous appelez si vous vous intéressez aux produits Made in France. Dites-nous ce que vous aimez consommer comme produits Made in France. 33 84 22 71 71 chez 7 milliards de voisins. c'est plutôt aujourd'hui. Le Made in France revient. Alors certes, ça reste un sujet de niche, hein, vous n'allez pas me contredire, Fabienne Delahaye, mais on entendait votre aventure, Didier Hurier, fondateur de la marque 1083 de jeans et de chaussures, jeans entièrement fabriqués, tissés à Marseille, les chaussures à Romans, dans la Drôme. Didier Porte, vous publiez l'Atlas de la France qui gagne. On découvre que bon, on est à la fois bosseur et glandeur, hein, c'est finalement c'est assez contrasté.
Et surtout, on se marre. Hein.
Et on se marre, voilà. Et surtout, bon, bien sûr, on mange bien, on peut s'habiller avec du chic français, mais là, il faut quand même.
Et vous savez qu'on a la meilleure école du monde, on le dit pas assez. La meilleure école, mais pas pour la production, hein, pour les diplômes, c'est l'école où on se fait le plus de copains.
Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est vrai que dans les enquêtes de l'OCDE, effectivement, les élèves français sont assez complexés.
Voilà.
Mais c'est le plus fort pourcentage d'élèves qui répondent « je me fais facilement des amis à l'école » de tous les pays de l'OCDE.
C'est ça l'esprit de l'Atlas.
Voilà, qu'est-ce que j'y apprends ? C'est une autre question. Alors, pour revenir à si on est consommateur, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, Fabienne Delahaye, que le consommateur, parce qu'il faut reconnaître que souvent, les produits faits en France sont plus chers. Donc, est-ce que le consommateur aujourd'hui est vraiment prêt à mettre un peu plus cher ?
Alors oui, alors voilà, quand on parle des prix, bon, l'exemple de Thomas est excellent. Je parlais de la brosse à dents, elle est pas plus chère. Il y a aussi beaucoup Mayamax, qui est une entreprise qui fait des chargeurs électriques. Il a relocalisé justement, il était en Asie, et ces chargeurs, c'est le prix d'un chargeur
sur les produits électroménagers.
Donc,
il
y en a plus beaucoup du produit brun, hélas. Hein,
ouais.
Mais bon, alors admettons que certains produits soient un peu plus chers. Il faut savoir ce qu'on met sur une étiquette, parce qu'on parle, on a parlé voilà des emplois, de la préservation des emplois, des savoir-faire, c'est essentiel, mais surtout vous retrouvez aussi un service après-vente. Je vous mets au défi d'aller réparer vos produits made in bout du monde.
Moi on peut renvoyer vos produits chez vous là s'il y a un problème.
Oui, bien sûr, pour être échangé ou remboursé.
D'une part, et puis il y a le savoir-faire d'une part, et puis il y a aussi la qualité, c'est-à-dire que alors là, je suis bien placée pour le savoir avec deux enfants qui sont scolarisés. Je sais pas, j'ai dû acheter 7 compas en 6 mois. Donc, racheter un produit défectueux que vous pouvez pas par ailleurs réparer vous coûte beaucoup plus cher.
Dans le domaine de la papeterie, c'est vrai, de l'équipement scolaire, plus rien n'est fait en France.
Très peu de choses. Il y a encore des choses faites en France, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont faites en Asie et pas forcément de grande qualité. C'est drôle d'ailleurs parce que sur le salon, on avait, je devrais pas dire ça, on avait, je sais pas, une cinquantaine de stylos qu'on a donné aux hôtesses, on a peu
Made
importe l'origine, aucun n'a fonctionné. Et donc, voilà, c'était la preuve vivante, aucun fonctionnait. Et donc, on a été nous-mêmes pris à notre propre...
Et est-ce que les limites du Made in France, c'est quand même pas finalement lié à des secteurs où il faut absolument faire du volume pour faire de l'argent?
Non, moi, je suis en désaccord avec cette idée-là, parce que...
C'est une question.
On l'a fait sur un marché très concurrentiel qui est le jean, qui est le symbole de la modélisation, qui est un des produits textiles les plus polluants au monde par rapport au délavage, etc. On a réussi à être concurrentiel des grandes marques. Ça nous demande de réinventer le modèle économique. On l'a trouvé en s'inspirant du modèle économique qui était en vogue lorsque la France était très industrialisée dans les années 60. Ça marche. Si on l'a fait sur le jean, on peut le faire sur tout.
Didier Porte, dans votre atlas mondial de la France qui gagne, on peut découvrir par exemple que la France c'est le pays où les femmes dépensent le plus en lingerie.
Oui, oui, ça a quand même une tradition. Ça, on serait choqué du contraire.
Voilà. Hein.
Et d'ailleurs, on est aussi le pays qui a
le
plus de jolies femmes au monde, puisque maintenant, pour être une jolie femme, faut être mince. Et la moyenne, meilleure moyenne.
Un débat, c'est pas sûr.
Non, mais c'est voilà, on a la meilleure moyenne d'IMC, vous savez, de masse. Voilà, donc il y a des statistiques comme ça étonnantes et alors par exemple aussi, vous découvrirez qu'on n'est pas ceux qui avons le plus de nombre d'étoilés au Michelin. De 2 et 3 étoiles, mais les Japonais ont plus de 2 et 3 étoiles
pour
au Michelin
que nous. Restaurants gastronomiques.
Ouais. Hein. Ouais. Et ouais, ils nous damnent le pion.
Oui, bon, sur les fromages, tout ça, on va pas y revenir, bien évidemment.
Inattaquable.
Et alors, effectivement, je ne savais pas, ça vous en avez dit un petit mot au début de l'émission, mais sans entrer beaucoup dans les détails, d'ailleurs, je vous ai senti très prudent, première destination mondiale, la France du naturisme. Vous pouvez nous expliquer en une minute ce que c'est que le naturisme pour nos auditeurs.
C'est se mettre tout nu, hein. C'est les nudistes. Alors, on appelait ça les nudistes.
C'est quoi une destination mondiale du naturisme?
C'est là qu'il y a le plus, effectivement, d'infrastructures pour accueillir les naturistes, et c'est là qu'ils viennent en masse, effectivement. Ils sont les plus nombreux, c'est le pays d'accueil
des camps
naturistes du monde entier. qui viennent chez nous parce qu'il y a des camps, il y a des plages, il y a des infrastructures, il y a tout ce qu'il faut pour eux.
Ouais. Bon, avant de se quitter, Fabienne...
Sauf les jeans.
Oui, ça donne envie de les rhabiller.
Fabienne Delahaye, donc pour ceux qui sont intéressés par le Made in France, il faut regarder l'étiquette Made in France, mais surtout pour plus de sécurité, il faut rechercher quoi exactement comme étiquette, comme label?
Alors, le label le plus sérieux aujourd'hui, c'est Origine France Garantie, puisque vous avez un organisme certificateur qui atteste de la provenance des produits. Donc, c'est incontestable. Cela dit, le marquage Made in France, c'est qu'un marquage, c'est pas un label, c'est pas quelque chose qui est systématiquement vérifié. Cela dit, c'est mieux que rien. Et puis, vous avez aussi une troisième solution, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai créé ce salon, c'est sur le salon, l'essentiel des étapes de la production sont produits sur le territoire, et c'est une fois par an,
voilà,
en novembre.
Rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous, Didier Port, à découvrir votre atlas de la France qui gagne. C'est publié aux éditions Autrement. C'est très instructif et en plus on se marre bien. Fabienne Delahaye pour le salon Made in France, rendez-vous dans un an. Thomas Hurier, on vous retrouve sur internet, fondateur de la marque 1083, ne vous trompez pas de chiffres, hein. C'est la marque de jeans et de chaussures fabriquées en France à Romans et à Marseille. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins. En Chine, les couples sont désormais autorisés à avoir deux enfants. Va-t-on assister à un baby-boom chinois? À demain.